20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Il est l'incontournable préhistorien de la France d'avant la France, des 10 millénaires qui bousculèrent l'histoire de l'humanité et fondèrent nos propres sociétés. Son terrain de prédilection, dans les pas de Fernand Braudel, la Méditerranée et la longue durée. Inlassable archéologue de terrain, Jean Guilaine évoque pour la première fois son propre passé au travers d'un ouvrage, mémoire d'un proto-historien, La traversée des âges, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Jean Guilaine, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur d'études à l'EHESS, professeur au Collège de France, membre de l'Institut Jean Guilaine. Le terrain est la base du métier, terrain que vous n'avez jamais quitté ?
Que je n'ai pratiquement jamais quitté depuis mes tout débuts, dans les années 50, donc du siècle dernier, bien entendu, jusqu'à aujourd'hui, dirons-nous, parce que je ne fouille guère plus, mais je suis encore les travaux de mes divers collègues en Méditerranée occidentale, tout comme à Chypre.
Vous allez à Chypre régulièrement, donc c'est votre dernier terrain.
C'est mon dernier grand terrain, Chypre. J'ai dirigé la mission française de Chiyuro Kambos, la mission néolithisation, pendant presque un quart de siècle. Je l'ai maintenant passé à François Briouat et à Jean-Denis Vigne, mais je reste très attaché à ce terrain.
Pourtant, Jean Guilaine, l'archéologue que vous êtes, sait qu'une fouille peut être à la fois rebelle, mais aussi une véritable drogue, du moins vous l'écrivez.
Une véritable drogue dans la mesure où l'archéologue croit en son gisement. Il a tendance à le porter, à en faire le gisement clé qui va donner toute explication à une thèse ou à une théorie donnée. Et en fait, ce terrain, en même temps, conteste d'une certaine façon, ne va pas toujours dans le sens désiré. Il peut donner des indications qui vont à contresens par rapport à la théorie émise. Donc, le terrain est rebelle en même temps. Il apporte, il enrichit, mais en même temps, il nuance. Et donc, l'archéologue est obligé de tenir compte des limites de son propre terrain. Alors, voyez cette contradiction. Il est à la fois porté à valoriser son terrain, mais en même temps, il s'en méfie. Il se rend compte que lui-même est un peu l'esclave de cette donnée, de cette documentation. Donc, on a toujours une sorte de va-et-vient entre le terrain et la théorie. Et c'est, au fond, le sel de la discipline.
Et vous, vous avez eu des terrains rebelles ?
Ben, j'ai eu des terrains rebelles dans la mesure où je pensais que le terrain allait confirmer certaines de mes théories. Et le terrain, parfois, vous dit non, là, vous allez trop loin. Là, on ne peut pas avancer ça. Et donc, on est toujours pris un peu en défaut par son propre terrain, par son propre gisement.
Fouiller est une chose, être archéologue en est une autre. L'archéologie, c'est penser l'histoire.
Je pense que l'archéologie est une discipline anthropologique dans la mesure où elle essaie de reconstituer évidemment la paléognologie d'une certaine façon, mais que in fine c'est une discipline historique, c'est-à-dire une discipline qui doit permettre de penser l'histoire et pas simplement d'apporter des matériaux. À un moment, ces matériaux, il va falloir qu'ils fassent sens, tout au moins leur donner du sens, et donc leur donner une perspective historique. Une archéologie qui n'aurait pas de perspective historique serait réduite en quelque sorte à la portion congrue, c'est-à-dire à apporter des objets matériels qu'on pourrait mettre dans des vitrines. L'histoire, au fond, c'est l'objectif.
Le grand tournant d'humanité, c'est bien entendu pour nous le néolithique, l'émergence de sociétés de production. Les historiens y percevaient, quant à eux, plutôt l'écriture. Aujourd'hui, le réchauffement climatique et la prise en compte de l'environnement renforcent notre vision. L'Anthropocène est affaire de préhistoire et de proto-histoire.
Mais l'Anthropocène, on a tendance à le faire débuter en gros avec la civilisation industrielle des 18e, 19e siècles. Mais en fait, l'Anthropocène, il démarre avec le néolithique. Le néolithique, au fond, c'est la clé de tous nos problèmes actuels. Et donc, on doit toujours avoir une perspective de longue durée. Le néolithique, c'est le moment où l'homme intervient sur la nature, il fabrique son paysage, il transforme cette nature, il la dénature. N'est-ce pas? Et donc.
Et il la domine.
Et il la domine, bien entendu, par la force des choses. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que les choses se modifient, sous l'effet de l'action humaine. Donc, je pense que si on veut étudier les interactions homme-nature, il faut les prendre à la base, à l'origine. Et l'origine, c'est le néolithique.
D'ailleurs, Fernand Braudel l'a écrit, la grande césure, ce n'est pas la chute de Rome, mais l'agriculture et l'écriture.
Alors, je pense qu'il a raison en ce qui concerne l'agriculture, bien entendu. Je suis un peu plus réservé en ce qui concerne l'écriture, parce que l'écriture, au début, elle n'est que le propre de quelques personnes seulement, et des personnes qui sont la plupart du temps au service des dominants. Donc, au début, c'est une source d'information évidemment très, très, très importante, mais peut-être son apport est quelque part biaisé au niveau de sa signification, tant qu'elle n'est pas démocratisée. Et donc, il faut un peu se méfier de l'écriture, tout au moins à ses débuts. Les choses changeront, heureusement, par la suite.
Pour vous, l'économie de production, donc l'émergence du néolithique, serait réellement le début de l'Anthropocène ?
Pour moi, oui, tout à fait, tout à fait. À partir du moment où l'homme intervient sur la nature, où il la transforme, on est vraiment au début de l'Anthropocène. Et les choses vont varier, d'ailleurs, tout au long des temps historiques, avec parfois de fortes emprises de l'homme sur la nature, et parfois, au contraire, des déprises. La nature, évidemment, fait preuve de résilience à ce moment-là. Mais c'est justement ce face-à-face permanent homme-nature que nous devons examiner tout au long des, en gros, disons, des 6 ou 7 000 ans maintenant, depuis le néolithique, que dure cette confrontation, pouvons-nous dire.
Qu'est-ce qui fait la valeur d'un archéologue ? Tout savoir sur son sujet, mais aussi rechercher dans d'autres disciplines pour élaborer, va-t-on dire, de nouvelles approches ?
Je pense que l'archéologue qui resterait cloisonné dans son terrain d'étude n'irait pas très loin. C'est-à-dire, il serait spécialiste de métallurgie, d'objets lithiques, de céramique. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de la typologie, simplement ? Donc nous avons absolument besoin d'autres disciplines qui viennent enrichir le terrain de l'archéologue. La caractérisation des matériaux, les datations, bien entendu. Mais surtout, à partir du néolithique, les naturalistes, c'est-à-dire la relation à l'environnement. Vous savez, moi quand je suis arrivé sur le marché, si je puis dire, de l'archéologie, il y avait deux sources, au fond, de documentation. D'une part les habitats, d'autre part les sépultures. Mais il y a une troisième source qui était laissée de côté. C'était l'espace, c'était l'environnement. Ce que nous appelions à l'époque, je ne sais pas si l'expression reste toujours, le hors-site. Mais le hors-site, c'est un objet d'étude. C'est même lui qui va nous documenter sur la façon dont l'homme transformait son milieu, le modifiait à sa guise, fabriquait en quelque sorte son propre décor, son paysage, puisque les néolithiques ont brûlé les forêts pour avoir des terrains de parcours pour leurs animaux, pour avoir des surfaces à cultiver, etc. Donc le hors-site, c'est-à-dire à la limite ce qui ne se voyait pas, eh bien est objet d'étude. Et aujourd'hui, les naturalistes nous renseignent sur la façon dont l'homme transformait ce paysage et comment, à diverses étapes du néolithique, évidemment, ce paysage s'est modifié.
Jean-Guilaine, vous me citez les sciences naturalistes, mais qu'en est-il des sciences de l'homme ? L'anthropologie, l'ethnographie ?
Bien entendu. Ben, l'ethnographie, l'anthropologie, d'abord l'ethnographie nous donne des modèles. Parce que souvent, nous avons beaucoup de difficultés à penser, à remettre en quelque sorte en perspective ce que nous trouvons. Donc, les modèles nous sont offerts par l'anthropologie. Et l'anthropologie physique, alors, évidemment, aujourd'hui d'ailleurs avec la génétique, est en train de bouleverser. Au fond, il y a eu un peu la révolution du radiocarbone, qui nous a beaucoup, en quelque sorte, ouvert les yeux, en particulier sur la longue durée des temps néolithiques. Je vous rappelle qu'à l'époque, on pensait que le néolithique en Europe, c'était 1000 à 1500 ans, pas plus, au temps de Child. Bon, on faisait commencer le néolithique français autour de 3000 avant notre ère. Et puis, il y a eu la révolution du radiocarbone qui nous a montré qu'il fallait compter à millénaire le néolithique. Mais vous avez aussi aujourd'hui la révolution génétique, on peut employer cette expression, qui nous montre qu'en réalité, les choses sont très compliquées et que les problèmes de peuplement doivent être revus à la lueur des données que nous apporte maintenant la paléogénétique.
Pour autant, l'archéologie ne reste-t-elle pas encore pour partie une science du catalogage, du catalogue ?
À la base, probablement. Mais puisque, évidemment, en archéologie, tout est cumulatif. une fouille n'en détruit pas une autre. Elle apporte des compléments d'observation, elle apporte une documentation qui vient enrichir. Et donc vous avez toujours, vous aurez toujours en archéologie une forme de catalogage, d'inventaire qui est bon. Mais le problème, c'est que ce catalogage en accentuant l'épaisseur de la documentation, permet de nouvelles interprétations. Ceci dit, l'archéologie est aujourd'hui, et heureusement, ouverte à des tas de disciplines qui l'enrichissent et qui, d'une certaine façon, finissent par modifier le parcours, les problématiques.
Il est étonnant qu'en France, nous soyons si peu conceptuels. L'archéologie française produit peu de modèles, comme la rythmique que vous aviez perçue durant la conquête néolithique.
Alors, des modèles, oui, il y en a, et d'ailleurs il y en a à tous les niveaux. Ce que fait par exemple Patrice Brun sur les sociétés proto-historiques, etc., au fond c'est de la modélisation.
Et de faire un bordel.
Et de faire un modèle.
Ces trois fameux cercles brodéliens.
Tout à fait, tout à fait. Mais alors, le problème de l'arythmie, évidemment, vous savez, il y avait le modèle de Cavalli-Sforza-Merman qui disait, en gros, 4000 ans pour aller du Proche-Orient jusqu'aux îles britanniques, 4000 kilomètres, donc déplacement en moyenne d'un kilomètre par an des sociétés néolithiques. Eh bien non, en se basant sur le C14 et surtout, on revient à l'archéologie, là. Sur les définitions culturelles de ces divers groupes, on se rend compte qu'en réalité, il y a eu des bonds en avant, il y a eu des pauses. Il y a eu des bonds en avant, il y a eu des pauses. Autrement dit, la progression des paysans qui ont migré à travers l'Europe pour apporter l'agriculture depuis le Proche-Orient jusqu'en Occident, ça n'a pas été une promenade, si je puis employer le terme, régulière, mais au contraire, une série d'avancées marquées ensuite par des moments de stabilisation au cours desquels la culture se refonde d'une certaine façon. Et lorsque cette culture est reformée et elle devient conquérante, elle va très vite, jusqu'à une nouvelle pause et ainsi de suite.
Nous avons évoqué voici peu la paléodémographie et le fameux baby-boom néolithique. La violence de masse est un autre sujet propre à cette période néolithique.
Avec Jean Zamit, nous avons publié un ouvrage il y a quelques années que nous avons appelé le Sentier de la guerre. Et nous avons essayé de montrer en fait que la violence est, hélas, inhérente à l'humanité et qu'en fait on pouvait trouver des traces de conflits déjà dès l'époque des chasseurs-cueilleurs. Mais évidemment, avec le néolithique, c'est-à-dire à partir du moment où vous fabriquez des richesses, des surplus, qu'il s'agisse de bêtes sur pied, de troupeaux donc, ou qu'il s'agisse de champs cultivés, vous pouvez attirer la convoitise des voisins qui n'ont peut-être pas les meilleures terres. Donc la violence s'est évidemment exacerbée avec le néolithique, et on a des traces de violence évidemment qui se... à partir de ce moment-là, deviennent très importantes. On a même, en Espagne, ces scènes de violence sont représentées sous la forme de panneaux rupestres où l'on voit des combats entre deux groupes d'archers. L'arc étant l'arme qui a servi, évidemment, à ce moment-là, à se confronter aux communautés voisines.
Et puis récemment, il y a eu deux très belles découvertes à Rhenheim, il y a environ 2 ans, qui est sorti d'un silo avec des individus avec des bras coupés.
Avec des bras coupés, oui.
Incroyable.
Dans l'est de la France. Et bon, ça, évidemment, ça nous oblige à réfléchir sur ces sociétés qui sont des sociétés de compétition. Alors, compétition interne, c'est-à-dire conquête, lutte pour le pouvoir à l'intérieur d'une communauté donnée, mais également, évidemment, compétition interne, extra-communautaire, entre villages voisins, pour des motifs qui peuvent être divers. Et pas forcément, souvent, pour des motifs purement matérialistes. Se battre, on se bat pour des motifs qui parfois sont purement idéologiques, n'est-ce pas ? Ou pour également la soif d'en découdre. Parce que le guerrier, en même temps, celui qui est valeureux au combat, se construit un statut social. Et donc la guerre, un peu comme la chasse d'ailleurs, est une façon de valoriser l'individu le plus expert, le plus adroit, le plus courageux.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Alors je reviens sur Arenheim, parce que c'est un site qui me paraît assez intéressant et que vous connaissez bien sûr très bien, même si ce n'est pas votre région. Les individus ont été, je vais dire, surtués. Une sorte de overkilling, comme on dirait en Angleterre.
Oui.
Quelque chose que vous connaissez, que vous avez déjà perçu.
Oui, oui, oui. Et on le perçoit d'ailleurs déjà à une époque bien plus ancienne. Je pense au site du Soudan, là, le site du Jebel Saba, où les archéologues ont fait une étude balistique. Alors les sujets sont morts, plusieurs sont criblés de flèches. On a fait des études balistiques et il a été démontré que certains sujets étaient déjà morts ou étaient déjà à terre lorsqu'ils ont été tués. Donc on crible le sujet pour que sa mort soit définitive, qu'il ne revive pas. On s'acharne au fond sur un cadavre. Et je me souviens, lorsqu'avec Jean Zambi nous avons écrit cet ouvrage, nous avions fait une comparaison de type ethnographique et historique, et on s'était rendu compte que les Indiens, lors de la conquête de l'Ouest, parfois, lorsqu'ils massacraient les soldats de l'armée américaine, ou de la police, n'est-ce pas, les criblaient également de flèches, autrement dit, les faisaient mourir X fois.
Jean Guilaine, un autre sujet autour de la hiérarchie sociale de ces périodes et par là même de la domination sociale?
Oui, la domination sociale, évidemment, l'archéologue a parfois du mal à observer, à la déterminer. Mais on s'aperçoit que même dans les tombes collectives, vous savez, les tombes collectives, ce sont ces caveaux dans lesquels vous pouvez trouver les ossements mêlés de 10, 20, 100 personnes. Et il est difficile là-dedans de voir quels étaient les dominants de l'époque. Et pourtant, on a des objets qui sont certainement liés à certaines de ces personnes, mais les remaniements de la fouille font qu'il est difficile d'attribuer ces objets au reste d'un personnage particulier. On a parfois plus de chance. Par exemple, en Italie, on a des hypogées qui ont été réservés à une ou deux personnes, et cette personne, en général, est dotée d'un mobilier très abondant, d'un équipement, disons, très abondant, qui montre qu'il s'agit là, en fait, de dominants. Et on a également, dans le sud de la péninsule ibérique, des cas de figure très intéressants, où dans certaines tolos, c'est-à-dire ces grandes tombes voûtées du troisième millénaire avant notre ère, on a un nombre de sujets enterrés qui est relativement restreint. Donc on a fait de très grands monuments pour un nombre de sujets limité. On pense donc que ces tombes pouvaient être des tombes de groupes sociaux ou de familles et qu'il y avait un recrutement particulier qui s'opérait. Et souvent, dans certaines de ces tombes, il y a ensuite une petite logette latérale dans laquelle il n'y a enterré qu'un seul individu. C'est le cas dans l'une des tolos de Montelirio, à côté de Séville. C'est le cas dans une des tombes d'Alcalá, au Portugal. Et ce personnage, alors, il est doté de mobilier absolument extraordinaire, de richesse, et au point de vue des parures, au point de vue des éléments importés. Souvent, en particulier, beaucoup d'ivoire d'éléphants, d'Afrique ou d'Asie. Donc, voyez, un matériau exotique dont la rareté et le caractère lointain signaient en quelque sorte la valeur. Et ces personnages sont évidemment des dominants. Et on voit donc que ces sociétés, et en particulier les sociétés du troisième millénaire, qui sont des sociétés à sépulture collective, en réalité, il ne faut pas se leurrer. Derrière l'accumulation de cadavres dans une tombe, il y a toujours, dans la société des vivants qui se profile derrière, des personnages qui ont dominé le corps social.
Que dire sur les statues menhirs ?
Alors les statues
menhirs, on est à peu près sur la même chose, non ?
On est sur la même chose, on est en gros à la même époque. Alors ce qui est intéressant, c'est que les statues menhirs nous donnent plutôt un catalogage du genre. Autrement dit, il y a des statues menhirs masculines, il y a des statues menhirs féminines. Alors, les sexes ne sont pas présents, mais certains attributs, en quelque sorte, connotent le sexe des individus représentés. Par exemple, les femmes sont représentées par leur poitrine, par leur sein. Et parfois aussi par des colliers, c'est pas ? Donc elles sont à la fois dans le naturel et dans on peut dire la séduction, globalement. Les hommes sont représentés par des armes. Ça peut être un poignard, ça peut être un arc avec sa flèche, etc. C'est-à-dire que si l'on transpose dans le système social, vous savez que pendant longtemps on a pensé qu'il s'agissait de divinités. Ça, moi, je ne le crois pas. Mais je pense que c'est une bonne photographie des sociétés de l'époque. Les hommes sont dans les armes, ont les armes. C'est-à-dire ils sont soit dans la chasse, soit dans la guerre. C'est-à-dire dans des comportements violents qui leur permettent, je le disais tout à l'heure, d'acquérir un statut. Les femmes, au contraire, elles sont dans le domestique, dans le gynécée, d'une certaine façon. Donc, vous voyez, on a en toile de fond deux sphères, une sphère masculine, une sphère féminine. Ça ne veut pas dire que les hommes aient occupé systématiquement des positions plus importantes que les femmes. Ça veut dire que dans ces sociétés de dominants, les dominants pouvaient être des deux sexes, mais chaque sexe avait sa propre configuration, en quelque sorte.
La Méditerranée, c'est bien sûr aussi des îles. La Corse, la Sardaigne et ses extraordinaires monuments. Lipari et ses coulées de lave. Mais aussi Malte et son mégalithisme. Autant de sujets dont on parle peu. Car il existe, par exemple, un véritable mégalithisme en Méditerranée.
Il existe des mégalithismes en Méditerranée. D'abord, vous citez ces îles. Chacune de ces îles est un véritable laboratoire. Les îles ont cette faculté, en quelque sorte, d'importer de l'extérieur un certain nombre d'idées, de concepts, mais de les digérer d'une certaine façon et de les restituer en donnant une spécificité culturelle tout à fait particulière. Alors, le mégalithisme de Malte, par exemple, bon, ce sont essentiellement des temples mégalithiques, c'est-à-dire, et en même temps qui ont une morphologie absolument unique. Malte, c'est un cas unique dans la préhistoire de la Méditerranée avec ces temples. Vous ne les retrouvez pas ni dans les îles de l'Est, ni dans les îles de l'Ouest de la Méditerranée. La Corse, la Sardaigne ont leur propre mégalithisme et donneront lieu également plus tard, à des monuments qui sont des monuments tout à fait particuliers. Je pense au Nouragues de Sardaigne, ces grandes bâtisses de l'âge du bronze, n'est-ce pas ? Qui ressemblent un peu à nos châteaux forts médiévaux et qui sont une spécificité de Malte. De la même façon, un peu plus tard, au tournant du dernier millénaire, vous avez les talayots des Baléares aussi et les fameuses taulas. On ne sait pas trop ce que c'est, on pense que ce sont des bâtiments cérémoniels qui caractérisent en quelque sorte le mégalithisme des Baléares. Donc les îles sont des laboratoires de culture en Méditerranée.
Et à Corfou ? Qui a-t-il à Corfou ?
Alors à Corfou,
vous y avez fouillé.
Bon, avec Jean-François Berger, son épouse Raphaël Gilbert, nous sommes beaucoup intéressés à Corfou pour des raisons différentes, parce que à Corfou, il y a un site qui s'appelle Sidari, et ce site est intéressant parce que on y observe une stratigraphie. On est là à l'ouest de la Grèce, du Mésolithique, c'est-à-dire les derniers chasseurs-cueilleurs, puis les premiers néolithiques qui ont une touche, si vous me permettez le terme, égéenne encore, au fond, c'est le néolithique de l'Égée qui diffuse vers l'ouest de la Grèce. Et puis au-dessus, vous avez un néolithique ancien à céramique imprimée qui prend le relais en quelque sorte du néolithique égéen et qui va apporter les recettes, disons, de la néolithisation dans toute la Méditerranée occidentale, en traversant l'Adriatique, en passant à l'Italie du Sud, et puis ensuite à tout l'Occident, voire jusqu'au Portugal.
1960, c'est bien sûr la fouille de la grotte Gazal. 1971, l'abri de Fontjuvénal. Nous voici dans la verticalité de la stratigraphie, dans la caractérisation des sociétés néolithiques, comme de la reconstitution des paysages. C'est ça votre objectif ?
Faut dire que lorsque je travaillais sur ces sites-là, dans les années 60 ou 70, en fait, nous n'avions pas beaucoup de crédit, donc il nous était difficile de faire de l'extensif. Donc, on allait dans les grottes, on essayait d'avoir, en quelque sorte, l'évolution culturelle des divers éléments qui avaient caractérisé le néolithique pendant toute la durée des millénaires néolithiques. Mais en même temps, ce qui était bien, c'est que on pouvait faire du paléo-environnement. Et le Midi de la France s'est beaucoup distingué à ce moment-là, puisque Jean Héroux a été peut-être le premier en France à faire les déterminations de graines, c'est-à-dire ça a été peut-être le premier carpologue à s'intéresser à l'archéologie. Jean-Louis Vernet à Montpellier a été l'un des premiers à installer en France une discipline comme l'anthracologie. On a fait aussi avec Guy Jalut de la palynologie. Donc on a restitué le paléo-environnement tout au long des millénaires néolithiques. Et pour rester sur l'exemple de conjuvénal, par exemple, c'est assez intéressant parce que la conjonction de ces disciplines a montré que les premiers néolithiques sont arrivés dans une forêt de chênes verts. Et ils ont commencé, évidemment, de nettoyer cette forêt, de la brûler éventuellement, etc. Puis on a vu qu'en compétition, au cours du néolithique moyen, c'est le chêne vert, n'est-ce pas ? C'était le chêne pubescent qui était au départ. J'ai dit chêne pubescent, chêne vert au début ? Non, c'était une forêt de chêne pubescent, de chêne à feuilles sessiles, n'est-ce pas ? Alors ensuite, au cours du néolithique moyen, c'est le chêne vert qui a pris le dessus. Et puis au cours du néolithique final, on a vu que le paysage était déjà très dégradé et que les premiers rudiments de la garrigue se mettaient en place, c'est-à-dire un paysage dégradé. Bien que, évidemment, la forêt ait pu, à certains moments, grâce à sa résilience, reprendre le dessus. Donc vous voyez, on a fait du paléo-environnement et c'était au fond un peu les débuts de ce genre d'études appliquées au néolithique en France.
Le néolithique se caractérise bien sûr par l'apparition de la céramique, mais il existe un néolithique d'avant la céramique et cela, vous l'avez étudié à Chypre ?
Oui, alors le néolithique sans céramique, il caractérise essentiellement les phases les plus anciennes du néolithique au Proche-Orient. Il faut être prudent d'ailleurs là-dessus parce que vous savez qu'il y a des chasseurs-cueilleurs qui ont une céramique beaucoup plus ancienne, en particulier en Extrême-Orient. Mais au Levant, au Proche-Orient, le néolithique, lorsqu'il se met en place, n'est-ce pas ? Autrement dit, lorsque des sociétés de chasseurs-cueilleurs insensiblement se transforment pour devenir des sociétés néolithiques, la poterie n'apparaît que tardivement. Donc, à Chypre, en fait, nous avons travaillé sur deux sites. Le site de Klimonas, qui correspond au néolithique pré-céramique A de la terminologie anglo-saxonne, mais
le plus ancien.
Qui est devenu international par la suite, au cours de laquelle on voit se mettre en place les débuts de l'agriculture, en quelque sorte, et la chasse continue. Et puis le néolithique pré-céramique B avec le site de Chirocambos, où l'agriculture s'installe définitivement et où l'on voit apparaître les premières espèces domestiques, le bœuf, le porc, le mouton, la chèvre, voilà. Et puis ensuite, la céramique apparaît. Alors, à Chypre même, elle apparaît tardivement, mais sur le continent, au Proche-Orient, elle se met en place sur l'Euphrate et en Anatolie autour de 7000 avant notre ère, et sur la côte également.
L'histoire de la Méditerranée, avec ses 4000 km de distance, n'est en rien une, mais on pourrait dire segmentée, constituée de hiatus, de déclins, voire d'effondrements, des sortes de pannes, pour reprendre un mot de Fernand Braudel. Quels sont les facteurs, les causes de ces tassements, de ces pannes ?
On ne les connaît pas trop. Alors, vous avez un premier tassement qui apparaît autour de 6000 avant notre ère. À Chypre, par exemple, vous avez la culture de Chirokitia qui entre en déclin à ce moment-là.
En Crète. 6000 ou 6002?
6000, alors oui, on le met en relation, évidemment, avec le fameux événement de 8200 BP event, n'est-ce pas?
Et
ou 6200 BC, c'est pareil, n'est-ce pas?
C'est un événement climatique majeur.
Événement climatique qui s'est traduit par une forme d'aridité au Proche-Orient. On a pensé que les puits, par exemple, pouvaient être asséchés et que les gens étaient obligés de changer de style de vie. Bon. Alors, en même temps, en Crète, à Knossos, à cette époque-là, Crète, île sur laquelle se sont implantés les premiers néolithiques. Tout d'un coup, ils disparaissent et ils ne réapparaîtront que bien plus tard. En Occident, où le néolithique n'est pas encore apparu à cette époque-là, vous avez les derniers chasseurs-cueilleurs qui semblent disparaître et à ce moment-là, le néolithique n'est pas encore en place. Donc, vous voyez, une déstabilisation des diverses cultures connues.
Jean Guilaine, vous êtes consacré corps et âme à cette archéologie qui, pour vous, serait un art de vivre ?
Je pense que l'archéologie, en tout cas pour ma part, a été un art de vivre, c'est-à-dire presque une philosophie.
On ne la quitte jamais ?
On ne la quitte jamais, non. Elle vous brûle jusqu'au bout.
Jean Guilaine, par décret du Conseil d'État et vote de l'Académie des inscriptions et belles lettres, la Fondation Christiane et Jean Guilaine a été créée ?
Elle a été créée, oui, par le Conseil d'État et dans le cadre de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Et son premier lauréat est Leonardo Garcia San Juan, professeur à l'Université de Séville, qui a fait la démonstration que le calcolithique du sud de la péninsule ibérique était déjà teinté d'influences africaines et orientales.
Jean Guilaine, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, Mémoire d'un proto-historien, la traversée des âges, publié aux éditions Odile Jacob. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Philippe Mercher, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inra.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture sera consacré à Homo lusonensis, nouvelle espèce humaine, avec bien sûr Florent Détroit.